Lettre 6 de Madame de Sévigné à Monsieur de Pomponne. Lundi 1er décembre 1664. Il y a deux jours que tout le monde croyait que l'on voulait tirer l'affaire de Monsieur Fouquet en longueur. Présentement, ce n'est plus la même chose, c'est tout le contraire. On presse extraordinairement les interrogations. Ce matin, Monsieur le chancelier a pris son papier et a lu, comme une liste, 10 chefs d'accusation, sur quoi il ne donnait pas le temps de répondre. Monsieur Fouquet a dit « Monsieur, je ne prétends pas tirer les choses en longueur, mais je vous supplie de me donner le loisir de vous répondre. Vous m'interrogez et il semble que vous ne vouliez pas écouter ma réponse. Il m'est important que je parle. Il y a plusieurs articles qu'il faut que j'éclaircisse et il est juste que je réponde sur tous ceux qui sont dans mon procès. » Il a donc fallu l'entendre contre le gré des malintentionnés, car il est certain qu'il ne saurait souffrir qu'il se défende si bien. Il a fort bien répondu sur tous les chefs. On continuera de suite. Et la chose ira si vite que je compte que les interrogations finiront cette semaine. Je viens de souper à l'hôtel de Nevers. Nous avons bien causé, la maîtresse du logis et moi, sur ce chapitre. Nous sommes dans des inquiétudes qu'il n'y a que vous qui puissiez comprendre. Car je viens de recevoir votre lettre, elle vaut mieux que tout ce que je puis écrire. Vous mettez ma modestie à une trop grande épreuve en me demandant de quelle manière je suis avec vous et avec votre cher solitaire. Il me semble que je le vois et que je l'entends dire ce que vous me mandez. Je suis au désespoir que ce ne soit pas moi qui ai dit la métamorphose de Pierrot en Tartuffe. Cela est si naturellement dit que si j'avais autant d'esprit que vous m'en croyez, je l'aurais trouvé au bout de ma plume. Il faut que je vous conte une petite historiette qui est très vraie et qui vous divertira. Le roi se mêle depuis peu de faire des vers. Messieurs de Saint-Aignan et d'Anjou lui apprennent comment il faut s'y prendre. Il fit l'autre jour un petit madrigal que lui-même ne trouva pas trop joli. Un matin, il dit au maréchal de Gramont « Monsieur le maréchal, lisez, je vous prie, ce petit madrigal et voyez si vous en avez jamais vu un si impertinent. Parce qu'on sait que depuis peu j'aime les vers, on m'en apporte de toutes les façons. » Le maréchal, après l'avoir lu, dit au roi « Sire, votre majesté juge divinement bien de toutes choses. Il est vrai que voilà le plus sot et le plus ridicule madrigal que j'ai jamais lu. » Le roi se mit à rire et lui dit « N'est-il pas vrai que celui qui l'a fait est bien fat ? Sire, il n'y a pas moyen de lui donner un autre nom. » « Oh, bien, dit le roi, je suis ravi que vous m'en ayez parlé si bonnement, c'est moi qui l'ai fait. » « Ah, sire, quelle trahison ! Que votre majesté me le rende, je l'ai lu brusquement. » « Non, monsieur le maréchal, les premiers sentiments sont toujours les plus naturels. » Le roi a fort ri de cette folie, et tout le monde trouve que voilà la plus cruelle petite chose que l'on puisse faire à un vieux courtisan. Pour moi, qui aime toujours à faire des réflexions, je voudrais que le roi en fît là-dessus et qu'il juge à part là combien il est loin de connaître jamais la vérité. Mardi 2 décembre. Notre chère et malheureuse amie a parlé 2 heures ce matin, mais si admirablement que plusieurs n'ont pu s'empêcher de l'admirer. Monsieur Renard a dit, entre autres, « Il faut avouer que cet homme est incomparable. Il n'a jamais si bien parlé dans le Parlement. Il se possède mieux qu'il n'a jamais fait. » C'était encore sur les 6 millions et sur ses dépenses. Il n'y a rien de comparable à ce qu'il a dit là-dessus. Je vous écrirai jeudi et vendredi, qui seront les 2 derniers jours de l'interrogation, et je continuerai encore jusqu'au bout. Dieu veuille que ma dernière lettre vous apprenne ce que je souhaite le plus ardemment. Adieu, mon très cher monsieur. Priez notre solitaire de prier Dieu pour notre pauvre ami. Je vous embrasse tous deux de tout mon cœur et, par modestie, j'ai joint madame votre femme. Mardi 2 décembre. Monsieur Fouquet a parlé aujourd'hui 2 heures entières sur les 6 millions. Il s'est fait donner audience. Il a dit des merveilles. Tout le monde en était touché, chacun selon son sentiment. Pussor faisait des mines d'improbation et de négative qui scandalisaient les gens de bien. Quand M. Fouqué a eu cessé de parler, M. Pussor s'est levé impétueusement et a dit « Dieu merci, on ne se plaindra pas qu'on ne l'ait laissé parler tout son sou. » Que dites-vous de ces paroles? Ne sont-elles pas d'un bon juge? On dit que le chancelier est fort effrayé de l'hérésipèle de M. de Nesmond qui l'a fait mourir. Il craint que ce ne soit une répétition pour lui. Si cela pouvait lui donner les sentiments d'un homme qui va paraître devant Dieu, encore serait-ce quelque chose. Mais il faut craindre qu'on ne dise de lui comme d'Argan « Et mori come vice. » Mardi au soir. J'ai reçu votre lettre qui m'a bien fait voir que je n'oblige pas un ingrat. Jamais je n'ai rien vu de si agréable ni de si obligeant. Il faudrait être bien exempte d'amour-propre pour n'être pas sensible à des louanges comme les vôtres. Je vous assure donc que je suis ravie que vous ayez bonne opinion de mon cœur. Et je vous assure de plus, sans vouloir vous rendre douceur pour douceur, que j'ai une estime pour vous infiniment au-dessus des paroles dont on se sert ordinairement pour expliquer ce que l'on pense et que j'ai une joie et une consolation sensibles de vous pouvoir entretenir d'une affaire où nous prenons tous deux tant d'intérêt. Aujourd'hui, notre cher ami est encore allé sur la sellette. L'abbé des Fiats l'a salué en passant. Il lui a dit en lui rendant son salut « Monsieur, je suis votre très humble serviteur » avec cette mine riante et fixe que nous lui connaissons. L'abbé des Fiats a été si saisi de tendresse qu'il n'en pouvait plus. Aussitôt que M. Fouqué a été dans la chambre, M. le chancelier lui a dit de s'asseoir. Il a répondu « Monsieur, vous prîtes hier avantage de ce que je m'étais assis. Vous croyez que c'est reconnaître la chambre. Puisque cela est, je vous prie de trouver bon que je ne me mette pas sur la sellette. » Sur cela, M. le chancelier a dit qu'il pouvait donc se retirer. M. Fouqué a répondu « Je ne prétends point par là faire un incident nouveau. Je veux seulement, si vous le trouvez bon, faire ma protestation ordinaire et en prendre acte. Après quoi, je répondrai. » Il a été fait comme il a souhaité. Il s'est assis et on a continué la pension des gabelles, à quoi il a parfaitement bien répondu. S'il continue, ses interrogations lui seront bien avantageuses. On parle fort à Paris de son admirable esprit et de sa fermeté. Il a mandé une chose qui me fait frissonner. Il conjure une de ses amies de lui faire savoir son arrêt par une voix enchantée, bon ou mauvais, comme Dieu le lui enverra, sans préambule, afin qu'il ait le temps de recevoir la nouvelle par ceux qui viendront la lui dire. Ajoutant que, pourvu qu'il ait une demi-heure pour se préparer, il est capable de recevoir sans émotion tout le pis qu'on lui puisse apprendre. Cet endroit-là me fait pleurer et je suis assurée qu'il vous serre le cœur. On n'est point entré aujourd'hui en la chambre à cause de la maladie de la reine qui a été à l'extrémité. Elle est un peu mieux. Elle a reçu hier au soir notre Seigneur comme viatique. Ce fut la plus magnifique et la plus triste chose du monde de voir le roi et toute la cour, avec des cierges et 1000 flambeaux, aller conduire et requérir le Saint-Sacrement. Il fut reçu avec une infinité de lumière. La reine fit un effort pour se soulever et le reçut avec une dévotion qui fit fondre en larmes tout le monde. Ce n'était pas sans peine qu'on l'avait mise en cet état. Il n'y avait eu que le roi capable de lui faire entendre raison. À tous les autres, elle avait dit qu'elle voulait bien communier, mais non pas pour mourir. On avait été 2 heures à la résoudre. L'extrême approbation que l'on donne aux réponses de M. Fouqué déplaît infiniment à Petit. On croit même qu'il engagera, puis, à faire le malade pour interrompre le cours des admirations et avoir le loisir de prendre un peu haleine des autres mauvais succès. Je suis très humble servante du cher solitaire, de Madame votre femme et de l'adorable Amaltée.